Le journal était présenté par Julien Lagache, que l'on retrouve à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Il me suffit de te voir. Je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. Les Républicains, le week-end dernier, le congrès du PS à Poitiers en ce moment. Ce sont des temps forts de la vie politique française et franchement, il y a un sentiment de déjà-vu. Le journal Le Monde, lundi dernier, explique que la droite et les Français méritent mieux que ce qui s'est passé lors de la refondation de l'UMP et que les Républicains, à peine nés, sont déjà divisés. Pas plus d'enthousiasme dans la presse pour la réunion de Poitiers. Le sentiment général se résume à un congrès. Pourquoi faire? Les journalistes doivent rendre compte d'un nouveau chapitre de la vie politique française qui ressemble pas mal aux pages précédentes. On nous annonce en 2017 le match retour de 2012. Hollande, Sarkozy, Le Pen, Bayrou, Mélenchon, avec peut-être un petit nouveau au premier tour, Juppé. Quoi de neuf et d'intéressant en politique? Comment répondre à cette question pour les journalistes? On en parle ce matin dans Le Secret des Sources avec nos invités. Éric de Couty, bonjour.
Bonjour.
Directeur adjoint de Marianne. Bruno Jeudy, bonjour.
Bonjour.
Rédacteur en chef politique à Paris Match. Et vous avez écrit avec Carole Barjon Le Coup Monté chez Plon en 2013. Et avec Éric de Couty, vous avez écrit ensemble Sarkozy et ses femmes, toujours chez Plon. Dominique Jamais est également avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste, écrivain, auteur aux éditions de La Différence du Mal du Pays. Alors Dominique Jamais avec une double casquette, ce qui nous intéresse pour le sujet, journaliste, écrivain, je l'ai dit, et politique, puisque vous êtes également vice-président de Debout la France. En duplex de Lille, bastion socialiste, très affaibli lors des dernières départementales, Frédéric Métezeau, chef du service politique de France Culture. Bonjour Frédéric.
Bonjour à tous.
Un service politique mis à contribution ce matin. Nous rejoindrons dans un instant Frédéric Seyss à Poitiers pour le congrès socialiste. Nos deux regards extérieurs aujourd'hui dans le secret des sources. Mariette Darigrand, sémiologue, et Thibault Henton pour les images et le web. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Dans les coulisses de l'émission, Vincent Abouchard, Mathias Mégy avec aux manettes cette semaine, Emmanuel Dupuis. Et puis bien sûr, le clin d'œil de la semaine signé Yacine Bouzard. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire, vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
Le nom a changé, mais les ambitions personnelles des ténors sont intactes. Les Républicains ont tous en tête le même objectif, 2017, à commencer par Alain Juppé.
Nicolas Sarkozy a le parti. Pour l'instant, j'ai l'opinion, hein, mais j'organise ma petite PME. Il arrive que des PME performantes soient plus efficaces que des grandes entreprises du CAC 40. Oui, je vais gagner la primaire, hein, je vais tout faire pour ça.
Alain Juppé sifflé hier par une partie de la salle, tout comme François Fillon. Plus qu'un couac pour certains leaders.
Pour moi, ça, c'est la résurgence de l'ancien parti. Pour moi, justement, ça ne doit pas être ça, les Républicains.
Bruno Le Maire se prépare pour la primaire. Son credo, le renouveau.
Faisons tomber les murs de cette classe politique qui ne se renouvelle jamais. Nous allons vous offrir de nouveaux visages.
Voilà extrait d'un reportage diffusé dimanche soir dernier dans le 20h de France 2. Alors ça barde dans le nouveau parti Les Républicains. Nicolas Sarkozy a le parti. Moi j'ai l'opinion, dit Alain Juppé. On entend les sifflets. Les mêmes qu'à Bordeaux, à l'automne dernier, à l'époque c'était l'UMP. Bruno Jeudy, vous nous dites 10 000 participants pour la naissance du parti Les Républicains. Et vous écrivez, même la première photo de famille est manquée. Alors est-ce qu'aujourd'hui, le journaliste politique est aussi un spécialiste des couacs?
Bonne expression.
Dans les partis et au gouvernement aussi.
Écoutez, on fait aussi avec ce qu'on a. Hein. Aujourd'hui, ouais. On a le spectacle politique peut-être que la France mérite, ou les Français se sont finalement choisis, hein, puisque quelque part, les acteurs de la vie politique, ce sont ceux que les militants désignent, ceux que les Français élisent. Et il est vrai qu'on est dans une période où, à la fois, on a eu un quinquennat précédent qui n'a pas plu aux Français, puisqu'ils n'ont pas renouvelé le président de la République sortant. Ils en ont élu un nouveau qui lui-même est en difficulté. On voit bien dans les sondages qu'il bat des records d'impopularité et il a 2 ans pour essayer de réussir un miracle. Ce sera sans doute difficile. L'histoire, c'est que le précédent veut revenir. Donc on est dans un système, finalement, la Ve République, qui aime bien finalement renouveler souvent les mêmes. Et il y a une espèce de verrouillage. Et ce qui s'est passé le week-end dernier, puisque vous en faisiez état, quelque part, c'est la renaissance d'une UMP... qui apparaît sous le nom des Républicains, mais avec une vraie reprise en main et un vrai verrouillage, parce que c'est la tradition des partis bonapartistes. Et Nicolas Sarkozy sait parfaitement diriger un parti. Il l'a fait entre 2004 et 2007, avec le succès que l'on sait. Et là, il tente de refaire la même opération, sauf que depuis 10 ans, il n'avait pas connu des obstacles. Et là, il en rencontre. Du coup, ça donne ce qu'on a vu le week-end dernier, c'est-à-dire des couacs, des sifflets. Mais aussi du monde quand même, moins qu'annoncé, mais on voit qu'il a un noyau dur de supporters très déterminés.
Éric Descôtis, Marianne. Je suis en désaccord
avec tout ça, mais je crois qu'on comprend mieux. Je remonte un peu à un autre problème qui est celui des institutions. Je pense que la réalité politique actuelle ne se comprend que si on comprend bien qu'on a changé de régime, au sens où on est passé du septennat au quinquennat et que le quinquennat a tout changé. Je pense que c'est ça la raison. La raison majeure, c'est qu'on est en permanence dans une situation de campagne électorale et où les partis politiques, et ça on ne le dit peut-être pas assez, nous journalistes tout court, les partis politiques sont devenus moins une usine de réflexion, des boutiques, des endroits, que finalement des écuries. C'est finalement un lieu d'incubation, je ne sais plus qui parlait ça, d'incubation, d'une espèce de start-up pour les primaires, et que finalement on a une série de chapelles, et que le propos politique, l'analyse de fond est totalement secondaire, et dans l'extrait que vous diffusiez à l'instant, qu'est-ce qu'on voit? On voit Alain Juppé, il parle de quoi? Il parle de sa candidature aux primaires, on entend Bruno Le Maire pareil, donc la question du propos politique est totalement passé sous silence par rapport à la concurrence électorale.
À l'échéance qui
a. À l'échéance des primaires. Et je pense que ça, le changement de rythme de l'élection présidentielle, on voit bien aussi le président de la République à l'époque du quinquennat, il était en retrait et c'était le premier ministre du septennat. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. C'est le président de la République qui est au premier rang et le premier ministre qui finalement est presque plus populaire. On l'avait vu avec François Fillon, on le voit avec Manuel Valls. Et ça, je pense que cette réalité institutionnelle qu'on a tous plus ou moins appelé de nos voeux, le changement, le passage du septennat au quinquennat, et bien aujourd'hui, c'est une des causes majeures de la pauvreté du débat politique.
Alors, Dominique Jamais, à la fois journaliste et engagé en politique, et je m'adresse aux journalistes et à l'écrivain, à l'allure de ce qu'on vient d'entendre, ce que vient de dire Bruno Jeudy, Éric Outil, ce qu'on vient d'entendre lors de la création, de la naissance du parti Les Républicains, comment un chômeur de 50 ans, chef de famille, peut-il trouver des réponses à ce qu'il angoisse tous les jours avec ce qu'offrent aujourd'hui les partis politiques? Alors peut-être que c'est à cause du quinquennat.
Il y a de plus en plus de gens, à commencer par les chômeurs, qui ne prêtent plus d'attention, qui ne prêtent pas foi au programme des partis politiques. Les promesses des hommes en place aujourd'hui, ou les promesses des hommes qui étaient en place hier, n'ont pas été tenues, ne sont pas tenues. Et naturellement, quand on est chômeur, la distorsion entre la société et soi-même, normale, naturelle, inévitable, ne fait que s'accentuer. Les uns sont à des années-lumière des autres. Ce qui restera certainement étonnant pour ceux qui feront l'histoire de la période où nous sommes, c'est que, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres pays récemment, ou contrairement à ce qui s'est passé à d'autres époques en France, il n'y a aucune traduction politique chez les exaspérés, chez les indignés, chez les exclus, aucune traduction politique autre que l'abstention, semble-t-il, le découragement, l'écœurement du malaise social, et notamment, naturellement, de la précarité, du malheur, des millions de chômeurs qu'il y a en France.
Mais n'a-t-on pas une responsabilité, nous, journalistes, ici, autour de la table, à s'emballer avec les écuries vers la prochaine échéance et à ne pas revenir vers des questions fondamentales? Ce qui m'a frappé le 18 septembre, lors de la conférence de presse de François Hollande à l'Élysée, conférence donc du 18 septembre dernier, 2014, il y avait plus de 300 journalistes et nous n'avons pas, nous, posé une seule question sur le chômage.
Oui, on avait déjà, il y avait déjà eu la même, le même sentiment lors d'une conférence de presse importante de Nicolas Sarkozy, où on avait finalement retenu l'affaire de son remariage avec avec Carla Bruni, plutôt que s'interroger sur sur les 35 heures, par exemple, qui était un des éléments forts de une des demandes de la droite, supprimer les 35 heures ou des questions sur le chômage. C'est vrai que ça avait déjà été le cas. Alors après, la responsabilité des journalistes dans finalement le rendu entre guillemets de ces congrès, de ces réunions politiques, c'est sûr que la multiplication des médias en boucle, les réseaux sociaux font que on a sans doute accru, mais ça existait déjà. Il y a beaucoup de choses qui existaient déjà, simplement ça a accru, c'est-à-dire la petite phrase, la bonne vacherie adressée par l'un ou par l'autre, et il faut reconnaître qu'en politique, il y en a toujours eu, c'est pas
la surexposition.
Peut-être qu'aujourd'hui, ça prend encore plus de place, et que finalement, quand Alain Juppé, dans un discours qui était très politique, mais où il y avait des choses aussi où il disait arrêtons de regarder derrière, construisons la société de l'avenir, et il mettait des choses en avant comme ça. Ça n'a pas du tout été retenu. On a retenu essentiellement sa réponse à la salle par rapport au sifflet. C'est vrai qu'il y a sans doute la façon de mettre le projecteur sur les propos politiques. En même temps, on voit bien que le jeu des primaires a accéléré, fait que la moitié d'un mandat présidentiel aujourd'hui, il y a la première moitié où on regarde un peu ce que fait le pouvoir en place. Et puis ensuite, à la moitié du mandat, peut-être encore plus vite sur celui-ci, parce que très vite, on a basculé dans une impopularité exceptionnelle, on est déjà projeté vers la présidentielle suivante. Le quinquennat, de ce point de vue-là, a accéléré les choses. Mais il faut reconnaître qu'avant, on a eu les matchs Giscard-Mitterrand, puis Mitterrand-Chirac.
Ça avait l'air de passionner plus.
Ça avait l'air de passionner plus, jusqu'à l'AC aussi. Souvenez-vous que la revanche Chirac-Jospin n'a jamais eu lieu. Les Français, c'est vrai, aiment les matchs en politique, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils aimeraient aussi qu'il y ait plus de renouveau, parce qu'ils voient aussi ce qui se passe autour de chez eux. Vous avez David Cameron, vous avez des leaders qui, une fois battus, ils s'en vont.
Bruno, ça c'est important, parce que le problème de la classe politique française, c'est que plus elle est battue, plus les gens sont battus, plus ils reviennent en candidature. On a vu l'exemple, c'est juste de citer l'exemple de l'Angleterre, où on a vu des gens battus qui se retirent. Et la France est quasiment une des seules grandes démocraties où on est battu et on revient encore plus fort. On revendique comme si finalement le fait d'être battu légitimait d'autant plus. C'était une sorte de victoire. François Mitterrand, Jacques Chirac.
Et ça, c'est
quelque... Non, mais ça, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Il y a une sanction. Une sanction démocratique. Elle doit se traduire par le retrait pur et simple de le...
Dominique Jamais, Dodeline de la tête.
On ne peut qu'abonder dans ce sens, et il y a quelque chose qui n'est pas assez souligné, me semble-t-il, c'est que Bruno Jeudy a commencé sur un thème archi-classique. C'est une vérité qui nous a été enseignée et que l'on a considéré, c'est quelque chose qui nous a été enseigné et que l'on a considéré comme une vérité dans tous les pays, dans toutes les démocraties, à savoir que nous avons les représentants que nous méritons. Les Français ont ce qu'ils méritent. Ils ont le gouvernement qu'ils ont mérité, etc., etc. Mais cela suppose en démocratie que l'on choisisse effectivement les gens pour qui l'on vote. Et à l'heure actuelle et depuis des années, les Français, les électeurs, les citoyens et même quelquefois les militants des partis politiques sont écartés du choix des candidats qui se présentent devant eux. C'est une situation tout à fait anormale, à telle enseigne que tous les sondages nous disent depuis quelque temps que les deux tiers des Français ne veulent plus de Sarkozy et d'Hollande, ne veulent plus du match Sarkozy-Hollande. Ce matin, un sondage du Figaro, apparu dans le Figaro, il y a seulement 25% des socialistes et 7% des Français qui souhaitent que Hollande se représente. C'est symétrique du côté UMP, et cependant, ce sont eux qui vont se présenter. C'est tellement choquant, c'est tellement évident, que l'on a inventé, il y a quelque temps, à gauche et à droite, symétriquement, les primaires, dans l'intention, paraît-il, veux-je dire, de rendre aux gens la possibilité de choisir. Et qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Deux choses. Il n'y aura pas de primaires chez les socialistes, nous voilà bien attrapés.
On va aller au congrès de Poitiers dans un instant, Dominique Jamais.
Et quant aux primaires, et je m'arrête là, ouais. Et quant aux primaires des Républicains ex-UMP, la question, une fois de plus, étant donné la vieille tradition du RPR, de l'UNR, de l'UMP, la question est de savoir si ces primaires seront réellement ouvertes ou un petit peu fermées, si elles seront truqué comme d'habitude ou pas truqué du tout. Donc, on n'a pas une situation satisfaisante.
Alors, vous parlez des Républicains. Vous dites des Républicains. Alors, ce nom, les Républicains, on va s'intéresser aux nouveau-nés. Comment doit-on en parler? Comment doit-on le nommer? Frédéric Mettezo, donc, vous êtes en duplex de Lille. Alors, c'est vrai, Frédéric, qu'à France Culture, ainsi que sur toutes les chaînes du groupe Radio France, bien, on s'interroge sur la façon la plus honnête de présenter un élu de ce parti, de ce nouveau parti, parce qu'il faut faire attention avec le terme républicain. Et vous, Frédéric Mettezo, vous êtes dans cette discussion et cette réflexion en ce moment.
Oui, on en parle ensemble sur France Culture. Il y a la difficulté à caractériser les élus de ce parti, puisque si on dit le député républicain, bon, eh ben ça sous-entend que les autres ne seraient pas républicains. Si on dit que Nicolas Sarkozy est le président des Républicains, ça veut dire que tous les gens qui ne sont pas pour Sarkozy ne sont pas des Républicains. Alors, on s'est entendu ensemble à la rédaction de France Culture, mais bon, on en a parlé, c'est pas non plus gravé dans le marbre, qu'il faudra peut-être dire le député Les Républicains ou le député du parti Les Républicains, mais c'est sûr, on peut pas dire le député républicain, mais... Là où votre question est intéressante, Frédéric, sur le traitement médiatique de la politique, c'est que cette appellation « les Républicains », on en a beaucoup parlé avant, on en a parlé pendant, on continue à en parler, on a fait des sujets, moi j'ai lu, j'ai entendu des tas de sujets sur « ah mais désormais à l'Assemblée nationale, on dira plus les acronymes, les sigles, on dira les noms complets des groupes, groupes socialistes, républicains et citoyens ». À un moment, est-ce que ça intéresse vraiment les lecteurs d'entendre que Christian Jacob n'est pas d'accord pour qu'on dise LR ? Et ça rejoint votre question sur le chômage, les 35 heures, les questions posées ou pas posées. Il faut faire attention aux questions microcosmiques.
Éric Descoty, Marianne.
Oui, deux choses. Nous, on a choisi à Marianne, tant que la justice s'est pas prononcée, parce que vous savez que pour l'instant, il y a eu un recours et que la justice s'est pas prononcée sur le fond. Elle a reporté l'examen. Donc, on a choisi de les appeler les ex-UMP. Donc, comme ça, on est tranquille. Et le jour où la justice se sera prononcée, ben, on verra. Non, mais plus sérieusement, c'est juste. C'est, je pense que tout ça... De quoi est-ce qu'on parle depuis le début? Et de quoi parlent les partis politiques? Et Dominique avait raison à l'instant. On oublie de parler du fond. Et je pense que, d'une certaine façon, ça les arrange bien. Parce que ils ont pas grand-chose à dire. Donc, alors, effectivement, et nous, c'est notre propre responsabilité, on abonde dans ce sens. On fait cette chronique, finalement, assez vaine, et je pense que c'est juste de considérer que les électeurs, ils s'en moquent. Ça peut les amuser deux minutes, mais pas très longtemps. Et je pense que ce que ça dit, c'est le vide sidéral aujourd'hui de la pensée, de la réflexion et de la proposition politique, aussi bien chez les ex-UMP que chez les socialistes.
Alors, je me tourne naturellement, tout naturellement, vers Mariette Darigrand, sémiologue. Les ex-UMP, nous dit Éric Descoty, les Républicains, est-ce que c'est qui existe donc depuis le week-end dernier, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir choisi ce nom, Mariette, selon vous?
Alors, je me suis posé la question, il faut que nous expertisions ce nom. Alors, dans les plus, hein, dans les choses positives, je dirais que c'est un indice de nouveauté, de modernité. Alors, les têtes ne changent pas. Moi, changer de nom, c'est classique, hein, dans le monde de l'industrie, de l'entreprise, ça arrive assez souvent. Donc, on va changer de nom, ça fait un petit moment un peu moderne. Je le mettrai quand même dans les plus. Un deuxième plus, ce serait l'incarnation, parce que là, ce sont des gens, les Républicains, ce sont des gens, on a du mal à les qualifier, mais ce sont des personnes, donc pourquoi pas. Ensuite, je pense que c'est une idée politique de la part de Nicolas Sarkozy qui va bien dans sa stratégie, c'est-à-dire qu'en s'appropriant la notion, il empêche le Front National de se l'approprier. Il fait le juge et c'est à lui de dire « sont républicains les miens et pas ceux de Marine Le Pen, par exemple ». Donc pourquoi pas, c'est un geste politique, on peut faire ce crédit-là. Là, je dirais, bon, je vous conseille de prendre ça. Mais alors là, il y a quand même un grand négatif. Et ce que vient de dire Frédéric Mettezo l'illustre parfaitement, c'est que, si vous voulez, quand on fait ça, quand on s'approprie une substance, une notion générique, c'est comme si une marque de sucre disait « je suis le sucre », on ne peut plus se qualifier. On a le général, on a le générique, et du coup, quand on parle de République, eh ben, on parle pour tout le monde, et on ne parle pas plus pour son camp. C'est-à-dire qu'on met une limite à son positionnement. C'est un nom qui se veut un positionnement politique au sens marketing du terme, qui commence bien et qui finit, à mon avis, très mal. Donc je ne lui vois pas une grande vie.
Dominique Jamais.
Oui, deux observations simplement. Je me demande, à la lumière de l'actualité et en vous écoutant, si j'aurai le temps de me déshabituer du MP avant qu'ait disparu le mot républicain. Ça, c'est une première observation.
Bah, les Républicains, c'est peut-être aussi pour mettre un peu les affaires sous le tapis.
Oui. Mais une deuxième observation...
C'est surtout fait pour se déshabituer du MoVeMP. Naturellement.
Mais une deuxième observation qui a été faite ça et là, mais que je n'ai pas eu clairement exprimée, c'est qu'il y a quelque temps encore, il était fortement question que le Parti Socialiste change de nom. C'était la proposition de Manuel Valls, elle était discutée. Il était fortement question également, il y a peu de temps, que le Front National change de nom. Il semble que c'était l'intention, même à un certain moment, de Marine Le Pen. Et bizarrement, la mutation de UMP en Républicain a fait disparaître toute velléité chez les socialistes et toute velléité au Front National d'adopter un nouveau nom que chacun tient les conséquences qu'il veut.
L'histoire des changements de nom est longue et tout à l'heure vous énumériez les différents noms des partis gaullistes successifs. Il y en a eu beaucoup. La droite change de nom tous les 10 ans. Je ne sais pas combien de temps durera l'actuelle.
Pourquoi change-t-elle de nom
Elle change de nom.
Pourquoi
elle a changé de nom UMP. Bruno. Le changement de nom UMP cachait un vrai changement de fond. C'était la réunion des gaullistes, des libéraux et des centristes. C'était un vrai projet politique. Certes, il fallait faire disparaître le nom RPM, mais c'était un vrai projet politique. Là, le problème des Républicains, c'est que on ne change rien. C'est,
à chaque fois qu'il y a eu un changement de nom.
Changer pour que rien ne change, c'est ça. Et là, c'est juste un changement de nom parce que Nicolas Sarkozy, lors de son congrès, n'avait pas grand-chose d'autre.
Le changement de nom.
Et Frédéric Mettezo,
très vite. Le changement de nom, une des premières raisons, ce qu'on ne dit pas assez, c'est pour des raisons purement judiciaires. On l'a vu. Pour les anciens partis, c'était le cas pour le RPR, c'était le cas pour l'ancien parti républicain de François Léotard. Chaque fois qu'un parti politique est perclus d'affaires avec toutes les conséquences financières que ça a, eh bien, il change de nom pour échapper. Il y a des raisons politiques, mais pour échapper à la sanction financière. Quand le RPR a disparu, on l'a vu à chaque fois. Et si l'UMP n'avait été pas accablé par les affaires et les risques financiers, eh ben, il n'y aurait probablement pas eu de changement.
Frédéric Mettezo, en duplex de Lille.
Oui, Frédéric, vous parliez de renouvellement en début d'émission, absolument. Oui. Vous parliez de renouvellement, on a entendu Bruno Le Maire qui parlait de renouvellement, on parle des changements de nom, on parle de changement des pratiques politiques, on peut peut-être s'interroger sur aussi le renouvellement de nos pratiques journalistiques, politiques. C'est compliqué la politique, c'est assez paradoxal. D'un côté, il faut une culture, il faut du recul, il faut de la profondeur pour savoir de quoi on parle, parce que sinon, on tombe en plein dans les éléments de langage. Donc, quand on fait de la politique, du journalisme politique, il faut faire ça pendant plusieurs années. En même temps, qu'est-ce qui se passe si on reste trop longtemps? On fait partie des meubles. Et c'est pas faire injure à Jean-Pierre Elkabbach, Olivier Mazerolle ou Jean-François Kahn qui tiennent encore les micros sur les ondes et qui sont des bons journalistes, qui sont des journalistes que j'admire profondément. C'est pas leur faire injure que de dire qu'ils sont là depuis longtemps dans la place. Et je pense que le problème du journalisme politique traverse aussi le problème des hommes, des femmes et de la classe politique, c'est qu'ils ne se renouvellent pas assez. Je vais juste vous citer quelques exemples. Moi, j'ai connu des gens qui aujourd'hui sont parlementaires, je les ai connus, ils étaient chargés de presse ou attachés parlementaires de députés ou ils étaient conseillers ministériels. Si ça continue, ces gens-là, ils vont faire carrière pendant 45 ans. Je pense qu'une carrière de 30, 40 ou 45 ans pour un journaliste politique, c'est pas bon non plus.
Message reçu, Frédéric Mettezo, vous avez envie de bouger.
On avait tellement dit que le Parti Socialiste était divisé, qu'il y avait des frondeurs, des râleurs, des grondeurs, toutes sortes de bestioles en heure. Non, nous avons la capacité, nous avons une majorité, nous avons un parti qui nous soutient. Mais voilà, il faut de temps en temps que les pendules soient remises à l'heure. Et là, la pendule a été remise à l'heure, ce qui va aider dans la période qui est devant nous.
Interview lyrique de Michel Sapin, le ministre des Finances, par Frédéric Seyss, diffusée lundi dernier sur France Culture. Frédéric Seyss, avec nous en duplex de Poitiers, où vous couvrez, Frédéric, le 77e congrès du Parti Socialiste. Alors, en début d'émission, on entendait Bruno Le Maire, du Parti Les Républicains, déclarer « faisons tomber les murs de cette classe politique qui ne se renouvelle jamais ». Alors, les murs tiennent bon au Parti Les Républicains. Comment ça se passe à Poitiers? Le congrès semble déjà ficelé. Comment allez-vous faire, Frédéric, pour capter l'attention des auditeurs de France Culture et de nous tenir en haleine pendant tout le week-end?
Alors effectivement, tout était déjà joué d'avance, hein, vous le savez, les militants ont tranché les 21 et 28 mai dernier, l'émotion et le choix du premier secrétaire, autrement dit les dirigeants et la ligne politique, c'est tout l'inverse de ce qu'on disait sur la droite il y a quelques minutes. Ici, il n'y aura pas de bataille de leadership Et pour tout vous dire, il règne un ennui assez certain parmi les responsables politiques, mais aussi parmi les journalistes. Pour tout vous dire, hier après-midi, la grande question parmi les reporters qui étaient ici à Poitiers, c'était à quelle heure arrive le train de Martine Aubry ? Alors effectivement, on n'est pas dans un congrès qui restera dans l'histoire. C'est pas un congrès avec une interminable nuit de tractation pour désigner le vainqueur, comme ça a été le cas au congrès de Reims en 2008. Ce n'est pas non plus un congrès de clarification idéologique, comme ça a été le cas, par exemple, à Metz en 1979, entre les chevènementistes du CRS, les marxistes, et la deuxième gauche de Michel Rocard. Donc, effectivement, on attend qu'il se passe des choses. Il y aura Manuel Valls qui viendra ce midi faire un discours, Martine Aubry cet après-midi également, mais pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose.
Est-ce qu'il y a du monde, Frédéric Seyss, à Poitiers ?
Alors oui, c'est quand même un endroit où il faut être, d'une part en interne pour les responsables politiques, puisque derrière les discours, il y a autre chose qui se joue, c'est la répartition des places dans les instances nationales du Parti Socialiste. C'est réparti à la proportionnelle selon les scores qu'ont obtenus les différentes motions. Alors ça peut être un axe à privilégier pour les journalistes pour sortir des discours un peu convenus qui appelleront inévitablement au rassemblement et à la réussite du quinquennat de François Hollande, c'est de traiter ce qui se passe effectivement en coulisses, les négociations entre chaque liste, mais le danger évidemment, c'est d'être dans le microscopique, dans la solférinologie, comme on dit, et d'être finalement très loin de ce qui intéresse les Français. L'autre tentation des journalistes ici présents, c'est de prendre une question qui est complètement à côté du congrès du Parti Socialiste et de la soumettre invariablement à tous les responsables qu'on voit passer sous une chaleur d'ailleurs écrasante, hein, comme un peu partout en France ce week-end. En l'occurrence, la question, c'est faut-il une primaire à gauche en 2017 pour départager les éventuels candidats ? Il y a eu un sondage qui a été réalisé par le Nouvel Observateur, par l'Observateur cette semaine, donnant Manuel Valls devant François Hollande et inévitablement aucun des responsables présent ici n'a échappé à cette question qui est complètement hors sol et la plupart des responsables politiques ont poussé un long soupir avant de devoir répondre à ces questions.
Merci Frédéric Seyss, bon week-end avec les socialistes à Poitiers.
What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time.
Don't Wanna Fight du groupe américain Alabama Shakes. Ils seront aux Eurocéennes de Belfort le 5 juillet prochain. Thibaut Henton nous a rejoint pour les images et le web. Alors Thibaut, comment rendre la politique intéressante ? Avez-vous trouvé la réponse sur les réseaux sociaux, Thibaut ?
Mais il semble en tout cas que le Sénat est une longueur d'avance sur l'Assemblée en la matière. La preuve, cette semaine, avec le projet de loi sur le renseignement. Toujours lui, vous trouvez que j'en parle trop, Frédéric, avouez. Eh bien, voilà pourquoi les journalistes n'arrivent pas à rendre la politique intéressante. Parce que l'arrière-cuisine du politique est bien moins spectaculaire que la cuisine politicienne décrite par nos invités ce matin. Sauf que pour s'intéresser à l'arrière-cuisine plutôt qu'à la cuisine, aux politiques plutôt qu'à la politique, il faut avoir du temps. Le temps de suivre ce qui se passe sur la durée, le temps de suivre les débats publics au Parlement, de repérer qui vote quoi, qui est à l'initiative de quel amendement, prêter attention aux argumentations, à la rationalité des discours des uns et des autres. Pas très divertissant. Ça ne vaut pas un bon épisode de série télé. C'est sûr, par exemple, un épisode du Bureau des légendes, la récente série de Canal+, consacrée justement aux services secrets français. Une série française et néanmoins excellente, qui nous montre, sous les traits de Mathieu Kassovitz, la belle humanité des espions. Musique.
When you
la semaine. Le projet de loi sur le renseignement si décrié était donc examiné en procédure accélérée, je le rappelle, par le Sénat, après avoir été voté à une large majorité par l'Assemblée il y a quelques semaines. Vous voyez, rien qu'en précisant ces choses-là purement factuelles, j'ai déjà l'impression de noyer mon propos et de vous perdre, auditeurs. Heureusement qu'il y a la petite musique du Bureau des légendes. À l'occasion de cet examen du projet de loi sur le renseignement par le Sénat, j'ai donc découvert l'application En Séance, une application qui permet de suivre facilement un amendement après l'autre, les discussions et de s'en rapporter au texte à tout moment. Au début du mois d'avril dernier, un geek du nom de Steve Morin a rencontré un franc succès en téléchargeant le code civil depuis le site officiel du droit français Légifrance sur une plateforme plutôt réservée aux développeurs, GitHub. Par ce simple changement de formalisme, la moindre modification du code civil devenait ainsi clairement visualisable, beaucoup plus clairement en tout cas, preuve que les outils qui servent à collaborer en ligne pour développer des logiciels pourraient être très utiles à la collaboration démocratique. Mais pas si vite. En démocratie représentative non collaborative, la vie publique, avant d'être rendue intéressante sinon praticable, doit d'abord être lisible. Et en la matière, le Sénat, avec son application En Séance, a donc un temps d'avance sur l'Assemblée nationale, ce qui ne l'empêchera évidemment pas, sauf surprise, énorme surprise même, d'entériner à son tour, mardi prochain, cette loi sur le renseignement qui autorise de fait la surveillance de masse par inspection des paquets en profondeur, car vous savez que sur Internet, les messages sont découpés en paquets.
Et une image vous a marqué sur ce sujet quasi obsessionnel pour vous, Thibault.
Plus exactement, un graphique vu sur le blog Hashtable dans un article consacré à cette loi sur le renseignement, toujours, et à l'impossible service après-vente de cette loi par la secrétaire d'État chargée du numérique, Axel Lemaire. Il s'agit d'un document officiel signé de la République du Bisounoursland, dont la devise est « Égalité, taxe, bisou ». Document qui liste les différentes étapes du projet de loi afin de mieux savoir où on en est en ce moment. Au départ, une idée consternante, puis une loi mal torchée, un parcours institutionnel chaotique, on en est là, et ça continue autour du décret d'application illisible, de la mise en place confuse, des effets imprévus et catastrophiques, de l'échec retentissant. De là, deux conséquences, rétribution des coupables d'un côté, punition des innocents de l'autre. Ces deux options nous conduisent à la dernière étape, schématisée par ce graphique et aussi vieille que l'État, la facturation des contribuables. Et tout cela intervient quasiment 2 ans jour pour jour après les révélations de Snowden, qui n'est plus besoin de présenter, et ceux qui n'ont pas encore vu Citizen 4 devraient le télécharger d'urgence, et alors que le Parlement américain a commencé à détricoter certaines des dispositions du Patriot Act, leur loi sur le renseignement à eux. Un texte de Snowden intitulé « Les rapports de force commencent à changer » a d'ailleurs été publié hier par Libération. En tant que Français, on n'est pas obligé de le croire, mais on peut par contre, on doit absolument méditer cette phrase limpide de ce même Snowden. Soutenir que nous n'avons rien à craindre de la surveillance de masse parce que nous n'avons rien à cacher, c'est comme soutenir que nous n'avons rien à craindre des atteintes à la liberté d'expression parce que, de toute façon, nous n'avons rien à dire.
Thibaut Henton, merci.
Bah, je pense que leur unique but, c'est de préserver leurs intérêts, être au pouvoir, pour l'UMP vaincre le PS, pour le PS vaincre l'UMP, etc. Donc les enjeux politiques priment, je pense.
Alors la politique, la vie de la cité, c'est bien sûr passionnant et essentiel. Et ce n'est pas contradictoire avec ce que nous venons d'entendre. Les Français s'intéressent à la politique, ils en parlent beaucoup. Ils aiment la politique, ce qui est peut-être moins attractif, c'est l'affiche. Le casting, et c'est ce que l'on voit, Bruno Jeudy, dans votre sondage. Quel second tour souhaitez-vous en 2017? L'affiche que l'on nous annonce ne fait pas rêver. Il y en a une douzaine, hein, je crois, que vous avez soumis aux Français. Aucun des duels n'atteint 50%, ils sont bien en dessous.
Oui, c'est le premier renseignement de ce sondage. En fait, on a soumis 12 configurations aux Français, 12 second tours, pas du tout farfelus. Hein. Ça va de Sarkozy-Hollande, évidemment, jusqu'à Valls-Juppé, puisqu'on a pris en fait les leaders principaux. Alors, on nous objectera qu'on les a pas tous pris, mais on a pris les principaux. Et finalement, le premier renseignement, aucun de ces duels n'est agréé par plus de 50% des Français. Donc déjà, ça montre le manque d'appétence simplement par rapport à l'affiche politique aujourd'hui qui se désigne, c'est-à-dire en gros les 7-8 qu'on annonce potentiellement au second tour. Et ensuite, quand on regarde dans le détail, il y en a un seul qui fait plus de 45%. C'est un peu, j'allais dire, le second tour de renouveau, et peut-être que ça prêtera à sourire, c'est-à-dire d'un côté Manuel Valls et de l'autre côté Alain Juppé, voilà, qui n'est pas un petit nouveau, comme vous le disiez au début de l'émission, mais qui ne s'est jamais présenté
un petit nouveau au premier tour.
Présidentiel, petit nouveau au premier tour. Il rêve de présidentiel depuis quasiment 3 décennies. Et puis, en fait, après, quand on regarde ces 12 configurations, on voit qu'évidemment, l'affiche Sarkozy-Hollande, celle qui s'impose petit à petit, hein, parce qu'on voit bien que François Hollande met en ordre de marche son parti, et puis Nicolas Sarkozy, sa machine électorale est prête, eh bien, est souhaitée par moins d'un tiers des Français. Et évidemment, ça interroge beaucoup. Alors, quand vous avez plus de 7 Français sur 10 qui disent non. Alors, en même temps, ils disent non, et quand vous demandez aux Français, Nicolas Sarkozy, on ne le souhaite pas à 7 Français sur 10, est-ce que votre pronostic, est-ce qu'il sera candidat ? Eh bien, c'est l'inverse. Les gens pronostiquent que ce sera lui le candidat. Ça montre le désenchantement de la classe politique près de 2 ans avant la prochaine présidentielle.
Et on part de loin. Éric Ducouty, l'affiche ne séduit pas, mais est-ce qu'on voterait pour un jeune, un plus jeune candidat à la présidentielle, un renouveau ?
Oui, mais encore faut-il que le jeune puisse aujourd'hui avoir accès à la scène publique, à la scène politique. Aujourd'hui, c'est que les partis, et encore une fois, je veux parvenir à ce que je disais au début, sur les primaires et les écuries qui verrouillent. On a aujourd'hui un système de partis qui sont verrouillés. On voit bien où c'est quasiment impossible. Bruno a raison, aujourd'hui, tout est fait pour que François Hollande d'un côté et Nicolas Sarkozy, qui a verrouillé le parti, pour qu'ils soient les finalistes. Donc quel est l'accès ? Un candidat comme Bruno Le Maire qui aujourd'hui, quand il fait son discours la semaine dernière, son propos en disant « il faut changer les têtes », mais au moins peut-être avec les primaires, les électeurs qui veulent du changement vont pouvoir s'exprimer.
Il va être candidat.
Il va être candidat. Donc c'est aussi de prendre la parole. Mais je pense que nous, puisque la question au départ c'est nous, il faut qu'on puisse montrer aussi au-delà du théâtre et des compétitions des écuries, qu'on puisse monter la vacuité aussi de ces écuries, en tous les cas de certaines.
Dominique Jamais, il faut changer les têtes en 2017, les affiches.
Si les têtes étaient satisfaisantes, il n'y aurait pas lieu de les changer, parce que quelque chose qui semblait échapper à notre ami tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge en politique, on a complètement oublié cela. Si on est content de quelqu'un, qu'on le garde. C'est quand on n'est pas content de quelqu'un qu'on devrait pouvoir s'en débarrasser.
Mais en Espagne, Podemos et Ciudadanos se fait des percées.
Oui, mais il y a en France une telle déconnexion en France entre le mécontentement de la politique et la volonté d'agir pour changer la politique, qu'on en est là. Parce qu'effectivement, pour rester dans le champ politique des grands partis, l'énergie des personnes qui sont en place consiste pour l'essentiel à empêcher ceux qui voudraient émerger de le faire. Il y a une relève possible au centre de Bayrou par Borloo, il y a une relève possible chez les UMP de Sarkozy par Le Maire, et il y a une relève possible chez les socialistes de Hollande par Valls. Et donc, naturellement, l'énergie de M. Hollande, de M. Sarkozy et de M. Bayrou, accessoirement, consiste à empêcher ces gens-là, par exemple, de faire la relève. Et les grands partis, d'autre part, bloquent de par le système majoritaire que nous avons et de par leur forte volonté de s'incruster au pouvoir, ils barrent tout renouveau du débat des personnes et de quoi que ce soit.
Frédéric Mettezeron, duplex de Lille, vous souhaitiez intervenir sur ce point ?
Oui, tout à fait, pour dire que c'est aussi difficile de renouveler et de changer les têtes dans les médias. La politique, c'est comme le sport, c'est devenu par moment, pour les grandes émissions, pour les matinales en radio et pour les 20 heures de télé, un grand événement. Hein. On veut avoir l'OM, on veut avoir le PSG, le Barça, et ben on veut avoir Sarkozy, Hollande et Valls. Et c'est vrai que c'est pas évident, notamment dans les médias audiovisuels, de faire émerger des personnalités politiques, des hommes et des femmes différentes. Si on dit « je connais un président de conseil général qui est très intéressant », il est peut-être très intéressant, mais à la place, on préférera avoir le ministre de l'Intérieur parce qu'il est plus connu. On cherche des stars, on veut des gens connus, et c'est vrai que c'est un travers médiatique, en tout cas pour les médias de masse, de vouloir aller toujours chercher les personnes les plus connues. Et du coup, que voit le téléspectateur ou qu'entend l'auditeur ? Des personnes qu'il entend depuis très longtemps, alors qu'il y a des élus locaux, il y a des parlementaires anonymes et travailleurs qui sont des gens formidables. C'est des gens qui travaillent 80 heures par semaine, et parfois on ne leur donne pas assez la parole, et ça je pense que c'est un travers médiatique qui est général et généralisé. Il y a des tas d'hommes et de femmes politiques à découvrir et qui sont des gens formidable.
Merci Frédéric Mettezeau. Mariette Darigrand, revenons sur le congrès de Poitiers, ce congrès socialiste qui s'est déroulé à Poitiers. Est-ce qu'il est révélateur de ce qu'on pourrait appeler une disproportion entre le minuscule et le majuscule en politique?
Mais en tout cas, j'ai été frappée ces derniers temps, effectivement, de l'émergence ou la réémergence de grands mots ou de gros mots, comme disait Deleuze, c'est-à-dire démocratie, république, le vivre ensemble. Et alors, comment ne pas faire effectivement le lien avec l'ennui distillé par les petites phrases ou les petits congrès? Alors, pourquoi ces grands mots? Vraisemblablement, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, probablement parce que ça manque d'idées. Quand on n'a pas d'idées, on sort les grands concepts et ce sont des coquilles vides. Tant qu'on n'a pas mis quelque chose dans un concept comme démocratie, bah, c'est du rien, c'est du vide. Alors, n'importe qui peut s'en emparer, hein, je pense à ce que font parfois les représentants du Front National en disant que la démocratie, c'est le peuple, puisque eux, leur fonds de commerce, c'est le peuple. Hein. Alors là, la question puisqu'on posait la question des journalistes, certainement, et de ne pas relayer ces mots tels qu'ils sont, mais d'aller creuser un tout petit peu à l'intérieur. Ouvrons notre dictionnaire, démocratie, ça ne veut pas dire pouvoir du peuple, contrairement à ce qu'on nous a dit depuis longtemps. Hein. Le démos, ce n'est pas d'abord le peuple, c'est le résultat du partage. Donc, déjà, ça fait ouvrir un petit peu. Oui, oui, c'est un verbe grec, le verbe daestai, qui veut dire partager.
Quand j'apprenais le grec, démos voulait dire peuple.
Alors, le peuple en tant que conséquence du partage. Et non, parce que c'est d'abord le territoire, si vous voulez, qu'on partage, hein, quand on est dans la Grèce athénienne. Alors, par exemple, je trouve que ça, c'est un sujet. Est-ce que la démocratie doit être... Bon, ça, c'est un sujet pour la vie journalistique, c'est-à-dire aidez-nous à comprendre... Quand un mot est pris comme ça, on peut faire le même exercice sur vivre ensemble qui a beaucoup circulé à propos de la réforme du collège, d'ailleurs pour être critiqué en général. Mais imaginons que ce mot émerge pour la gauche, par exemple. Si la droite prend République et la gauche prend vivre ensemble, ça va peut-être faire un paradigme. Alors là, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? Est-ce que ça veut dire quelque chose pour... est-ce que c'est ça la politique? Est-ce que c'est pas ça la politique? Il me semble qu'il y a derrière ces grands mots une multitude de petites questions vivantes qui pourrait être un petit peu capable de renouveler quand même l'immense langue de bois dans laquelle nous sommes tous aujourd'hui entraînés.
Merci Mariette Darigrand. Vous êtes d'accord, on ne fait pas assez l'effort d'expliquer les mots que nous lancent les politiques. Et je vois on parlait de la réforme du collège, on voit dans le sondage dans Match, hein, Bruno Jeudy, que la réforme du collège, c'est l'un des thèmes que les Français, dont les Français aiment le plus parler.
Oui, tous les mois, on interroge les Français sur leur conversation. Et c'est vrai que ce mois-ci, c'est un des thèmes qui, comme quoi la politique concrète intéresse les Français. Inversement, quand vous regardez ce tableau, les deux sujets qui ont le moins intéressé les Français, pratiquement moins de 10% des Français, c'est le congrès du Parti Socialiste et le congrès du Parti Républicain. Donc on est en plein dans le sujet. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, on fait attention, on essaie de décrypter dans le discours de Nicolas Sarkozy le week-end précédent, la grande expression, c'est la République de la confiance. Il nous a posé sur la table ce qui ressemble sans doute au contenant de son véhicule jusqu'à politique, jusqu'à la présidentielle de 2017. Et ce qu'on a vu, nous, c'est qu'on a entendu ce concept, fort beau concept, mais on n'a pas vu beaucoup de contenu. Et honnêtement, on l'a décrypté ainsi. C'est-à-dire qu'on a dit, Nicolas Sarkozy porte cette République de la confiance, mais qu'y a-t-il dedans? Pour l'instant, rien. Il ne nous a pas parlé d'économie. Il a parlé des sujets dont il parle aujourd'hui beaucoup, la religion, la laïcité, mais bon voilà, beaucoup de concepts avec lesquels tout le monde est d'accord. Mais il n'y a pas beaucoup de concrets.
Vous les voyez beaucoup, les hauts personnages de l'État en off, vous leur dites, là, attendez, franchement...
Vous savez, je crois qu'il y a une différence entre, pour ce qui est des journalistes, entre les chaînes d'information continue et le travail qu'on peut faire, notamment dans la presse écrite, et en radio aussi, mais les chaînes d'information continue ont pollué énormément le débat. C'est pas les journalistes qui sont en cause, c'est la structure même de ces chaînes-là qui fait que c'est l'image. On va être ce week-end sans doute abreuvé d'un vide avec le congrès de Poitiers où il va probablement rien se passer. Mais il y a cette info-là, il y a la caricature, il y a la petite phrase, le travail de décryptage dans la presse écrite qui, comme malheureusement, comme on le sait, va mal, elle est présente.
Il y a le travail des chaînes d'info continue, mais aussi il y a la réponse des politiques qui veulent apparaître sur ces chaînes.
Mais vous savez, pour moi, la réponse des politiques, souvent, c'est très comparable à la parole de football. C'est-à-dire qu'à la fin d'un match, il y a le rien. Et je crois que le rien, il faudrait passer outre ce rien. C'est du vide, on ne le passe pas, parce que ça n'a aucun intérêt.
Proposer des mots, proposer du langage, ça ne vient jamais de la part des médias. Ça serait intéressant. Il y a des gens très créatifs et de formation littéraire, en plus.
Mais ce n'est pas nous qui faisons le discours politique. C'est les politiques qui délivrent un discours à la tribune, et les congrès sont faits pour ça. Or, les congrès, j'en ai vécu quelques-uns, désolé pour le confrère tout à l'heure, mais ça permet d'ailleurs de prendre du recul. Aujourd'hui, on a beaucoup, congrès des Républicains, très peu de batailles sur la ligne politique. Beaucoup de batailles de tempérament, des hommes qui sont lancés à bloc vers 2017, mais qui au fond d'ailleurs sont souvent pas si éloignés que ça sur le fond. Mais il y a peu. Aujourd'hui, on voit bien que le problème de l'opposition actuelle, c'est que Nicolas Sarkozy n'a pas voulu faire son droit d'inventaire. Donc du coup, il zappe cette étape et il passe à l'étape déjà de la campagne 2017 et des slogans.
Écoutez, Dominique Jamais.
Il se pose à l'heure actuelle, me semble-t-il, en France comme dans d'autres pays, de graves problèmes économiques et sociaux notamment. Et que mettons en avant? Qu'est-ce qui occupe le devant de la scène depuis des années? C'est les problèmes sociétaux. Hein. Ça occupe le monde, ça fait parler, c'est beaucoup moins important. Ce n'est pas le fond. Bon, de la même manière, qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui occupe les gens? À quoi pensent les gens? Au chômage, à tort ou à raison, à l'immigration, au rapport de la France à l'Europe et au monde, au débat entre libéralisme et socialisme. Est-ce qu'il en est question? Jamais. Ce sont des sujets qu'on n'aborde plus, ni dans les congrès politiques, ni dans les débats parlementaires, ni par conséquence dans les médias. On en parle de moins en moins. Ils sont en effet d'accord sur beaucoup de choses. Ils sont d'accord sur tant de choses. Où est le débat?
D'abord dans les
et ce qui fait
qu'à l'heure actuelle, au think tank aujourd'hui.
Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, effectivement, on est réduit, on en est réduit aussi bien comme spectateur que comme commentateur et même quelquefois comme acteur à s'intéresser avant tout aux passionnantes querelles de personnes, aux ambitions, aux rivalités, aux intrigues, c'est-à-dire à tout l'aspect romanesque et non inintéressant de la politique, mais qui est quand même l'écume des choses.
Oui, oui. Alors, on reste dans les mots et les phrases qui ont marqué la vie politique ces dernières années.
Et on essaie d'habiller de grands mots idéologiques, des coquilles vides, pardon. Hein, j'oubliais cela, naturellement. République, démocratie, laïcité, il n'est plus question que cela. On s'en... Il s'en moque.
Le clin d'œil de Yacine Bouzard.
Autre sujet dans l'actualité, la liste noire du Kremlin. Claude Barthelone souhaite emmener Bruno Le Roux lors du prochain voyage parlementaire à Moscou. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que vous le soutenez?
Notre route est droite, mais la pente est forte.
Autre sujet, la COP21. Vous étiez avec François Hollande aujourd'hui. Seulement 37 pays sur 200 ont remis leur copie pour la réduction des gaz à effet de serre. Est-ce que c'est déjà un semi-échec?
Si je puis vous résumer l'opinion du président de la République... C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
Est-ce que vous avez assisté à la guerre entre Laurent Fabius et Ségolène Royal sur ces sujets? Est-ce que l'enjeu ne mérite pas un peu mieux?
Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
Un mot des Républicains qui se sont réunis aujourd'hui, eux, sur la question de l'islam en France, en présence des représentants de trois religions monothéistes. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que c'est un sujet d'importance?
Nous ne voulons rien instrumentaliser, mais nous ne voulions pas nous cacher.
Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux.
Un tout dernier mot sur le congrès du Parti Socialiste, vous allez y assister ce week-end?
J'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche. Fais les valises, on rentre à Paris.
Merci à tous, et l'émission se termine. Merci à nos invités, Éric Decouty, directeur adjoint de Marianne, avec en couverture cette semaine le J'accuse de Régis Debray. Régis Debray en colère contre le prêt-à-penser, Éric Decouty. Et puis un scoop, une photo.
Oui, Agnès Sahl. Comme vous ne l'avez jamais vu, dans le métro.
Bruno Jeudy, rédacteur en chef politique de Paris Match. Vanessa Paradis en couverture qui quitte Benjamin Biolay, mais également les deux sondages politiques dont nous venons de parler. Un reportage poignant, oui, sur les migrants.
Avec des photos exceptionnelles.
De François Delabarre. Merci également à Dominique Jamais, journaliste et écrivain. Frédéric Mutezo, chef du service politique de France Culture. Avec nous, en duplex de Lille, et Frédéric Seyss, journaliste au service politique de France Culture, nous a appelé de Poitiers, où se tient donc tout le week-end le 77e congrès du Parti Socialiste. Nos deux regards extérieurs de l'émission qui nous ont accompagnés et éclairés aujourd'hui, Mariette Darigrand, sémiologue, et Thibaut Henton pour les images et le web dans les coulisses de l'émission. Mathias Mégy, Vincent Abouchard pour la préparation, la réalisation et le site franceculture.fr, avec aux manettes aujourd'hui Emmanuel Dupuis. Le clin d'œil de la semaine que l'on vient d'entendre, Yacine Bouzard. Dans un instant, le journal de Julien Lagache suivi de répliques. Retour aux sorties du religieux. Alain Finkielkraut reçoit Marcel Gaucher et Pierre Manant. C'était le secret des sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal et réplique. Bonne journée sur Culture.
Pour tout vous dire, il règne un ennui assez certain parmi les responsables politiques, mais aussi parmi les journalistes. Pour tout vous dire, hier après-midi, la grande question parmi les reporters qui étaient ici à Poitiers, c'était: à quelle heure arrive le train de Martine Aubry ?
c'est pas faire injure à Jean-Pierre Elkabbach, Olivier Mazerolle ou Jean-François Kahn qui tiennent encore les micros sur les ondes et qui sont des bons journalistes, qui sont des journalistes que j'admire profondément. C'est pas leur faire injure que de dire qu'ils sont là depuis longtemps dans la place.
Nous, on a choisi à Marianne tant que la justice ne s'est pas prononcée, parce que vous savez que pour l'instant, il y a eu un recours et que la justice ne s'est pas prononcée sur le fond. Elle a reporté l'examen. Donc, on a choisi de les appeler les ex-UMP. Comme ça, on est tranquille.